Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce nouveau numéro de Vivante Église. Le 13 janvier 1898, Émile Zola publiait dans le journal L'Aurore son fameux article « J'accuse », où il prenait non seulement la défense d'Alfred Dreyfus, mais où il mettait en cause un certain nombre de personnalités impliquées dans l'affaire. Lundi prochain, à l'occasion du 127e anniversaire de sa publication, l'affaire Jean Rodin organise à l'Institut catholique de Toulouse une conférence consacrée au J'accuse de Zola. Présentation dans quelques instants avec mes deux invités du jour. Mes deux invités sont les animatrices de cette conférence. Je salue Aude Bernard Roujou de Boubet, docteur en droit et maître de conférence à la Faculté libre de droit de l'Institut catholique de Toulouse, actuelle titulaire de la chaire Jean Rodin. Et je salue également Marie-Cécile Cadars, maître de conférence en littérature comparée et membre de l'unité de recherche culture, éthique, religion et société à l'Institut catholique de Toulouse également. Bienvenue aussi à toutes les deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Et puis meilleurs vœux puisque c'est la période.
Merci beaucoup. Merci. Et bonne année.
Oui, très bonne
année. À vous aussi
et aux auditeurs.
Nous allons rappeler dans quelques instants ce que fut l'affaire Dreyfus et le contexte dans lequel Zola publie son J'accuse en janvier 1898. Mais la première question que je voulais vous poser, c'est de savoir pourquoi vous avez souhaité lui consacrer une conférence à l'ICT en 2025. En quoi cet article a, selon vous, une actualité, une résonance particulière à notre époque ?
Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Alors, pour être très honnête, l'idée est venue d'une discussion entre deux collègues qui ne sont pas, et vous l'avez rappelé, du même domaine scientifique, puisque Marie-Cécile Cadars est maître de conférence en littérature comparée. Je suis pour ma part juriste. Nous sommes venus lors d'une conversation à discuter du texte de Zola et à ses implications sur le plan littéraire, sur le plan juridique. De là est née la perspective de faire une conférence pour la date anniversaire, donc pour le 13 janvier 1898 et donc 2025, les 127 ans. Et puis, on s'est posé la question de se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'attendrait pas les 130 ans ? Sauf que les 130 ans, ça nous semblait loin au regard de l'engagement de l'écrivain, qui, à mon sens, doit être souligné sans attendre 3 années de plus, et également au regard du contexte que l'on vit tous ces temps-ci, au sujet notamment de la presse. Donc, nous avons envisagé cette conférence, mais nous avons aussi en tête la perspective de faire une journée plus importante, plus dense, pour les 130 ans, de façon à vraiment prendre en compte toutes les ramifications et toutes les conséquences de l'affaire Dreyfus et du J'accuse. Je parle beaucoup, donc je cède tout de suite la parole à Marie-Cécile.
Merci Aude, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, effectivement, on travaille souvent toutes les deux, on discute beaucoup et on s'est retrouvés sur ce texte. Aude m'a dit, oui, mais ça a révolutionné beaucoup de choses juridiquement parlant. Et moi j'ai dit, mais ça a révolutionné la littérature. Il y a un avant, il y a un après. Et il y a l'aboutissement de tout le travail naturaliste, idéologique de Zola. Toutes les deux, on s'est dit, allez, on fait quelque chose. Et puis, le contexte avec la montée de l'antisémitisme, actuel, les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercacher, nous ont incité à maintenir cette date en se disant que l'Institut catholique avait tout à fait sa place dans ce genre d'événement et de l'intellectualiser mais aussi de l'opérationnaliser sur un plan de la vie quotidienne, qu'elle soit juridique ou culturelle. Donc voilà.
Oui, et puis la question évidemment de l'engagement personnel et politique d'un artiste qui va être au cœur de cette conférence, entre autres, la loi de la liberté de la presse. On va y revenir. Bon, il faut au préalable qu'on rappelle à nos auditeurs ce qu'a été l'affaire Dreyfus et de quoi cet officier français, alsacien d'origine et de confession juive, fut accusé en 1894.
L'affaire Dreyfus part d'une broutille, entre guillemets, puisque c'est un bordereau déchiré qui est trouvé par une femme de ménage dans les bureaux de l'état-major. Bon, ça aurait pu rester une sanction martiale parmi d'autres, sauf que le contexte est extrêmement défavorable. Vous l'avez rappelé, Dreyfus est alsacien. Il y a eu la défaite de Sedan en 1870, donc...
Il est riche.
Il est riche, il est juif. Donc ce sont que des facteurs aggravants le concernant. La France cherche absolument à asseoir son rayonnement national. L'Allemagne a été unifiée en 1871, donc un ennemi de plus devant elle. Le contexte de l'exposition universelle qui arrive aussi. Et puis, il faut abattre l'ennemi de l'intérieur, celui qui est le pire, le traître, celui qui peut nuire à la France. L'Alsace est ballottée avec la Lorraine, malheureusement, d'un côté allemand, d'un côté français. Donc, suspicion sur la loyauté des citoyens.
Oui, parce qu'en fait, il est accusé d'avoir livré des renseignements à l'Allemagne.
Et il est accusé, voilà, d'avoir livré des renseignements...
Des documents.
À l'Allemagne. Voilà. Et puis, il faut dire aussi que le contexte antisémite de l'époque est très, très, très violent. Il a des racines à la fois religieuses, puisqu'on a tout un pan de catholiques conservateurs traditionnalistes qui sont toujours sur l'idée que les Juifs ont tué le Christ et ils leur en veulent.
Le peuple décide.
Voilà. On a un contexte capitaliste aussi qui est défavorable, les Juifs étant souvent liés à la finance.
Oui, c'est la banque. Voilà.
C'est ça, c'est la banque, c'est Rothschild, etc.
C'est l'argent de toute façon.
C'est l'argent, et bah, c'est l'argent qu'ils capitalisent au détriment du peuple qui, lui, souffre. Donc c'est la faute du Juif, ce qui sera repris malheureusement après dans d'autres contextes. Et il y a aussi un antisémitisme scientifique. Un antisémitisme de race où on commence à avoir des scientifiques, hein, c'est le scientisme à l'époque, hein, c'est l'apogée de la science a remplacé Dieu, hein, dans les mentalités modernes, et on vient à croire qu'il y a des races supérieures, des races inférieures, et le juif fait partie des races inférieures à éradiquer. Donc le contexte est extrêmement défavorable, notamment dans les milieux politiques et culturels de l'époque.
Alors ça, oui, il faut qu'on parle Dreyfusard, anti-Dreyfusard, mais je vais donner la parole tout de suite à Aude-Bernard Rougeau de Boubet.
Sur les faits, tout est allé en fait très vite. Donc on retrouve ce bordereau, comme le disait Marie-Cécile Cadars, par la voie ordinaire, c'est-à-dire par les poubelles qui étaient récupérées. Le 15 octobre 1894, il est convoqué sans motif au ministère de la Guerre pour réaliser une dictée. De cette dictée, on commence... fin octobre, à partir du 31 octobre, début novembre, à faire des expertises. Expertises qui sont menées par des personnes qui ne sont pas experts graphologiques et par d'autres qui sont experts graphologiques. Les experts graphologiques, notamment un certain Gobert qui est expert près de la Banque de France, met en avant le fait qu'il y a des ressemblances et des dissemblances et que dès lors, rien n'est certain. Dans le contexte que rappelait Marie-Cécile Cadars, il y a quand même une instruction judiciaire qui est ouverte en novembre 1894. Donc on est un mois après sa première convocation au ministère de la Guerre, donc c'est très rapide. Sans rentrer dans les détails, l'instruction sera close avant que son avocat ait accès au dossier. Donc on a aussi, en termes de droit de la défense, des petites questions maintenant. Autre temps, autre mœurs. Le 3 décembre 1894, le commandant Besson d'Ormacheville rend son rapport au gouverneur militaire de Paris, dans lequel il laisse sous silence certains éléments qui peuvent faire innocenter le capitaine Dreyfus. Et au contraire, il va accentuer l'accusation à l'égard de ce capitaine sur des traits moraux, des éléments moraux. Et ça rejoint ce que disait à l'instant Marie-Cécile, sa connaissance de l'allemand, sa confession juive, évidemment, et puis on lui donne des mœurs particulières. Bon, voilà. Le 4 décembre, on donne ordre de le présenter devant un tribunal militaire. Et poursuivi pour autre trahison, le conseil de guerre se réunit du 19 au 22 décembre 1894, donc c'est très très rapide. Son avocat a juste le temps, à la fin du procès, de lire les conclusions sous l'angle purement juridique pour mettre, d'ailleurs sur l'avocat, mais j'ouvre une parenthèse, sur le fait que l'avocat lui-même, initialement, on ne lui demandait pas de se positionner, mais n'a accepté de défendre Dreyfus que s'il y avait une possibilité, il y avait une porte de sortie pour démontrer qu'il n'était pas si coupable que ça. Donc bon, ça rejoint également ce que disait tout à l'heure Marie-Cécile Cadars. Le procès se déroule et en réalité, à l'issue du procès, on décide de condamner le capitaine Dreyfus puisque le tribunal reçoit pendant ce procès un dossier secret. Et dans ce dossier secret, il y aurait, je cite, des preuves irréfutables de la culpabilité de l'accusé, dont l'avocat n'a pas connaissance, dont le capitaine Dreyfus n'a pas connaissance non plus. Et bien évidemment, il est condamné à la déportation perpétuelle, puisque rappelons que la peine de mort avait été abolie pour les crimes politiques par l'article 5 de la Constitution de 1848. Donc le 31 décembre 1894, Alfred Dreyfus avait déjà formé un pouvoir en révision. Le Conseil permanent de révision rejette son pouvoir pourvoi en révision. Il est condamné et on assiste, alors on assiste, on n'y était pas, mais on se souvient tous de ces lithographies, de ces images qu'on a pu voir sur le 5 janvier 1895, où il est convoqué à la cérémonie de la dégradation dans la cour Morland de l'école militaire de Paris, ce qui est extrêmement dur, humiliant.
Voilà, les pieds brisés.
Exactement.
Enfin, bon, on l'a vu tous.
Exactement, on lui arrache ses insignes.
Ses caricatures, ses gravures.
Voilà. Et ensuite, il sera envoyé
à l'île du Diable,
l'île du Diable.
Guyane.
Même pas au bagne en plus, hein, sur une île exilée, qui était encore pire que le bagne, si c'est possible.
Alors, ce qui se passe, c'est que quelques années après, le véritable traître est identifié. Comment s'appelle-t-il ?
Alors, a priori, le lieutenant-colonel Picard a des doutes sur la culpabilité et sur l'acharnement et le caractère expéditif du traitement de Dreyfus et va commencer à mener sa propre petite enquête. Et il s'avère qu'il va découvrir que c'est Esterházy qui serait...
Valsin Esterházy,
voilà.
Hein, un officier d'origine hongroise,
hongroise, tout à fait. Qui serait, on va mettre des
guillemets là aussi, bien sûr, parce que là aussi,
le traître. Traître qui, malgré tout le travail de Picard pour démontrer, si ce n'est la culpabilité d'Esterházy, du moins l'innocence de Dreyfus, ben, Picard va être promu en Tunisie, donc on va l'exiler de manière polie et sympathique. Et contre toute attente et contre toute preuve, Esterházy va être acquitté.
Oui, parce qu'il va y avoir un nouveau conseil de guerre.
C'est ça.
C'est Esterházy qui va passer en conseil de guerre.
Oui.
Mais il va être acquitté. Picard dit, c'est peut-être Esterházy, on est en novembre 1897, donc 3 ans après le début de l'affaire.
C'est ça.
Et c'est en janvier, toujours au mois de janvier, décidément, le 11 janvier 1898, que, à l'unanimité, Esterházy est acquitté.
Tout à fait. Mmh. Alors, il faut souligner à ce moment-là que Esterházy, déjà le lieutenant-colonel Picard, n'était pas initialement acquis à la cause de Dreyfus. Donc, c'est vraiment un personnage qui agit en son âme et conscience et parce qu'il est chef de la section des statistiques et qui souhaite mener à bien son travail. Il trouve en effet également par voie ordinaire des lettres qui laissent à penser que c'était peut-être Esterházy. Et en novembre, surtout 1897, Mathieu Dreyfus, qui est le frère d'Alfred Dreyfus, arrive à identifier que l'écriture sur le bordereau de 1894 correspond à la même écriture que celle d'un de ses débiteurs, qui est le commandant Esterházy. Et là, il y a un fait important, c'est le rôle de la presse. Parce que cette affaire, elle aurait pu rester un petit peu dans les sourdines. Et ce qui se passe, c'est que c'est le journal Le Figaro qui publie des lettres d'Esterházy qu'il avait adressées à son ancienne maîtresse, dans lesquelles il fait part de sa haine de la France et de son mépris pour l'armée. Donc, l'état-major intervient et demande à ce qu'Esterházy soit jugé pour mettre fin à la polémique. Parce qu'on a déjà un petit peu cette polémique qui commence à arriver. C'est dans ce contexte qu'Esterházy va être attrait devant le Conseil de guerre, et absolument pas par rapport à Dreyfus, mais du moins Dreyfus est au second plan.
Oui, alors vous parlez de polémique, bon, vous y avez fait allusion déjà, Marie-Cécile Cadars, à l'époque, le milieu politique, la presse et l'intelligentsia de la fin du 19e siècle se déchirent autour de cette affaire et se partagent entre ce qu'on appelait les Dreyfusards, ceux qui soutiennent Dreyfus, l'innocence de Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, ceux qui l'accusent, qui disent qu'il est bien coupable, bon, sachant, comme vous l'avez rappelé, que l'antisémitisme était vivace et très répandu dans la société française de la fin du 19e siècle. Alors, qui sont, on peut donner peut-être quelques noms, parce qu'il faut le rappeler, ça. Qui étaient les Dreyfusards, qui étaient les anti-Dreyfusards ?
Il faut savoir déjà qu'à l'issue du premier conseil qui condamne Dreyfus, Zola est convaincu de la culpabilité de Dreyfus. Pour lui, ça, en première intention...
La façon dont c'était présenté, de toute façon...
Voilà, en première intention, pour lui, ça faisait ça, pas...
Pas l'ombre d'un doute.
Pas l'ombre d'un doute. Et puis, Zola est toujours très, très intéressé par l'effet de société. Hein, c'est ce qui a quand même sa marque de fabrique. Et puis, il va s'intéresser comme ça un peu de loin. Et comme rappelait Aude tout à l'heure, bon, il est exilé et puis plus rien pendant 3 ans. Et il est invité fortuitement, comme ça, le hasard, hein, chez le sénateur Scheuer-Kestner, qui est un ami intime de Picard, et qui le convainc lors d'un déjeuner qu'on est sur ce qui fait vraiment l'obsession zolienne, c'est-à-dire de l'injustice et de la falsification, en lui disant, un homme comme vous qui a toujours combattu pour Germinal, pour enfin, toutes les causes que vous avez embrassées, vous ne pouvez pas concevoir comme ça que Dreyfus est coupable, et pendant tout le déjeuner et un bon moment de l'après-midi, va lui montrer qu'il y a une injustice. Et là, Zola, animé par ce qui est chez lui quelque chose de viscéral, va prendre fait et cause pour Dreyfus. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, la France est plutôt anti-Dreyfusarde. Donc lui, de son côté, il a peu de gens avec lui, si ce n'est Mathieu Dreyfus, Scheuer-Kestner et quelques-uns. Et on a quand même des poids lourds comme Maurice Barrès, comme la presse plutôt de droite, le Sénat qui est plutôt aussi anti-Dreyfusard et lui
va... Le président de la République de l'époque est anti-Dreyfusard, Félix Faure qui viendra célèbre pour d'autres raisons.
Félix Faure en premier, donc qui fera l'objet de cette lettre dont on parlera tout à l'heure, puisque J'accuse est une invention de Clémenceau, enfin c'est lui qui a pris cette anaphore comme étant un titre très marketing, mais au départ ça s'appelle Lettre au président
Clémenceau
Félix
qui fait
Faure.
Partie des Dreyfusards. Au même titre que Jaurès.
Au début,
et
pareil. Au début,
je parle au moment où l'article va apparaître.
Où, tout à fait. Et de fait, Félix Faure, le premier, est anti-Dreyfusard. Donc, ça clive complètement jusque dans les familles. Il y a des familles qui se déchirent aux repas dominicaux entre Dreyfusard et
anti-Dreyfusard.
Voilà, des époux. Ça a un retentissement qu'on imagine difficilement.
Je vais donner quelques noms comme ça d'anti-Dreyfusard et qui, pour beaucoup, l'étaient parce qu'ils étaient férocement antisémites.
Oui.
Il y a les peintres, Edgar Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec, Paul Cézanne, Rodin. Et puis, il y a les écrivains que vous avez cités, Maurice Barrès, Léon Daudet ou Charles Maurras, parfois pas forcément pour les mêmes raisons, parce qu'il y a à la fois de l'antisémitisme, mais aussi de l'anti-germanisme.
Anatole.
Le sentiment nationaliste est très fort à l'époque. Et puis, dans les Dreyfusards, il y a Clémenceau, je l'ai cité, il y a Jaurès, il y a Léon Blum. Et puis, il y a des écrivains comme Charles Péguy, comme Anatole France, Octave Mirbeau, Proust, Jules Renard, et puis bien sûr, Zola lui-même, en tout cas, au moment où il va décider donc d'écrire cet article, donc le 13 janvier 1898 dans l'Aurore. Quel événement le pousse en fait à l'écrire? C'est l'acquittement d'Esterhazy. C'est ça qu'il ne peut pas tolérer.
Oui, c'est ça. Et il avait commencé déjà sur quelques lettres avant, qu'on peut retrouver notamment dans un livre qui a été préfacé par Henri Mitterrand et qui est absolument fabuleux et qui s'appelle « La vérité en marche ». La lettre à la France et la lettre à la jeunesse, dans laquelle il va exhorter la jeunesse à ne pas camper sur les préjugés raciaux, religieux, économiques de leurs aînés et de véritablement être une jeunesse, c'est-à-dire être un renouveau. Lettre qui aura peu de retentissement. Lettre à la France, dans laquelle il va ouvrir à un public plus large, notamment par des procédés rhétoriques où il va essayer même de toucher le peuple. Ça, c'est très intéressant parce qu'il a cette maîtrise de l'écriture qui peut toucher aussi bien les grands de ce monde que les plus petits. Et finalement, écrire directement à Félix Faure en lui disant « Ne soyez pas celui qui va porter cette tâche. Ne soyez pas celui qui va mettre la France dans une situation absolument inextricable au point de vue de la morale, de la justice et de la vérité. »
Alors rappelons que Zola, à l'époque, est au sommet de sa gloire. Oui. Il y a eu tout le cycle des Rougon, Macquart. Enfin bon,
il a fini un an avant. An avant, 1893, il termine.
Quelles sont les conséquences pour lui? C'est un risque énorme qu'il prend. Il se met sous le coup de la fameuse loi de la presse 1881. Donc, quelles vont être les conséquences de l'apparition de cet article pour Zola?
Alors, tout à fait, je cite Zola. Dans sa lettre, il conclut en disant « En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. »
Ouais, il met ça à la fin de son article.
À la fin de sa lettre, tout à fait. Donc, il renvoie en effet à la loi du 29 juillet 1881, comme vous pouvez le constater, qui est très jeune, en fait, à ce moment-là, qui a peut-être une quinzaine d'années, qui permet pour la presse d'avoir une certaine liberté, à condition de respecter les limites qui sont prévues par la loi. Ces limites qui sont prévues sont assez nombreuses. Il s'agit de la diffamation, de l'injure, de l'offense, de la publication de fausses nouvelles et d'une information qui serait délivrée alors qu'elle fait l'objet d'une absence d'information à délivrer, c'est-à-dire par exemple une atteinte à la dignité de certaines victimes de crimes. Bon, les principales infractions sont toujours la diffamation, l'injure ou l'offense. Donc là, très clairement, il commet une infraction et il nous donne les clés pour être condamné par la suite en disant « mais de toute façon, je m'expose au coup des articles 30 et 31 de la loi 1881 ». Et il a tout à fait raison, il s'y expose en effet, puisque les articles 30 et 31 renvoient à l'article 23 concernant la diffamation. Pour qu'il y ait diffamation, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il faut la réunion de trois éléments. Il faut tout d'abord l'imputation ou l'allégation d'un fait précis. C'est ce qui va d'ailleurs permettre de différencier l'injure de l'offense, enfin la diffamation pardon, de l'offense. Lorsqu'il fait part dans sa lettre de tout le contexte, il cite de façon très précise ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, dans quel cadre ça s'est passé et qui l'a fait. Donc on a en effet un fait très précis qui est relatif.
Et il accuse effectivement nommément. Hein,
nommément. Alors voilà, ça c'est le deuxième élément cumulatif. C'est-à-dire que le délit doit viser une personne identifiable. Là, il n'y a pas plus identifiable que ça. voilà, j'accuse le général Mercier, j'accuse le général Boisdeffre. Voilà, c'est très clair. Il n'y a absolument aucune difficulté là-dessus. Le troisième élément cumulatif pour caractériser une diffamation, c'est une atteinte à l'honneur ou à la réputation. Alors, cette atteinte à l'honneur ou à la réputation fait qu'il faut que ce soit considéré de façon objective. C'est-à-dire que la Cour de cassation est venue postérieurement nous dire, voilà, c'est pas par rapport au ressenti de la victime, mais c'est de façon objective, est-ce que ça peut porter atteinte à l'honneur ou à la réputation. Et comme le disait tout à l'heure Marie-Cécile Cadars, on est dans un contexte où l'armée donc a perdu la bataille de Sedan, on est dans une remobilisation de l'armée, on a besoin d'avoir une armée qui est forte, qui est soudée, qui est claire, qui est prête à combattre l'ennemi qui est l'Allemagne à ce moment-là, notamment. Et donc forcément une atteinte à 10, je crois, généraux, commandants et également au président de la République, bien évidemment que c'est une atteinte à l'honneur et à la réputation. Donc il se met sous le coup, en effet, des articles 30 et 31. Pourquoi le fait-il ? Pour réouvrir le dossier. Voilà.
Et il va comparaître ?
Il va comparaître.
En février, donc très rapidement. Mm-hmm. Mais oui. Aussi, les choses vont très vite. Il est condamné.
Oui. À la peine
au maximum
maximale.
De
exactement.
La peine.
À la peine maximale.
Et il va devoir s'exiler à Londres.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, avant que le jugement lui soit notifié, son avocat lui conseille de partir s'exiler à Rome, oui. Pardon, à Londres, pour ne pas être arrêté, ce qu'il fait. Et il part le soir même, sans bagage, sans rien. Il ne connaît pas l'anglais, il n'a rien sur lui, et il part directement à Londres.
Voilà, bon, il est important de faire tous ces rappels avant que l'on parle de votre conférence en elle-même. On va parler de la grâce, ensuite de Dreyfus, la réhabilitation, et puis de Zola, qui va mourir en 1902. Il aura eu le temps de voir la grâce de Dreyfus, mais pas la réhabilitation, ouais. Qui va intervenir en 1906, si je ne me trompe pas. On va écouter, pour faire cette pause musicale, un poème d'un contemporain d'Émile Zola, Paul Verlaine, poème mis en musique et chanté par Léo Ferré. Écoutez la chanson bien douce.
Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée, pourtant comme elle est encore fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale l'éclaire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est dit
discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse.
Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours en compagnie d'Aude Bernard Rougeau de Boubet, docteur en droit et maître de conférence à la faculté libre de droit de l'Institut catholique de Toulouse, actuel titulaire de l'affaire Jean Rodin, et de Marie-Cécile Cadars, maître de conférence en littérature comparée et membre de l'unité de recherche culture, éthique, religion et société à l'Institut catholique de Toulouse également, après avoir rappelé le contexte dans lequel Zola publie son article « J'accuse », le 13 janvier 1898 dans l'Aurore. Nous allons maintenant nous intéresser au programme de la conférence que vous lui consacrez lundi prochain, le 13 janvier donc, de 12h30 à 14h à l'Institut catholique de Toulouse. Précisons d'abord que l'entrée est libre et qu'il est possible d'y assister en visioconférence pour les détails pratiques.
En effet, oui.
Entrée libre, bien sûr, dans la limite des places disponibles, mais a priori ce sera dans une salle assez grande. Alors comment vont se dérouler vos interventions respectives ? Est-ce qu'il y a un temps bien précis ? J'imagine que oui. Quel support allez-vous utiliser ? Est-ce qu'il y a la projection de documents ? Dites-nous un peu tout ça.
Mais écoutez, cette affaire Dreyfus et le texte de Zola ne peuvent pas être découpés schématiquement avec tant de paroles pour l'une et tant pour l'autre. Vous ne pouvez pas analyser le J'accuse sans prendre en compte le contexte politique littéraire de l'époque et sans prendre également en compte les conséquences juridiques du dit texte. Donc ce sera naturellement, je pense, une conférence un petit peu ping-pong où on se complétera mutuellement, en laissant une part importante à la fin à des questions et à des réponses, puisqu'à mon sens, il faut que ça puisse vivre, cette conférence. Elle n'est pas que purement scientifique, il faut avoir un échange derrière, notamment au regard, ce que vous disiez au tout début, des conséquences actuelles, ou du moins des répercussions actuelles que le texte pourrait avoir. Voilà, c'est l'idée de la conférence.
L'article sera projeté, par exemple, sur un écran pour que les gens l'aient sous les yeux, ou est-ce qu'il va être lu ?
Alors, nous n'aurons pas le temps de le lire,
ben parce qu'il est long,
c'est quand même, j'ai compté, 4570 mots.
Ah.
Oui, j'ai compté. donc, il est long. Il faut avoir, je pense, aussi une qualité oratoire particulière pour pouvoir le lire.
Ça, vous auriez pu demander à un comédien de venir le lire. Pourquoi pas ? Je pense qu'il y a des gens qui feraient ça très bien.
Certainement, certainement. D'ailleurs, Denis Podalydès en a fait une lecture qui est absolument remarquable, si les auditeurs veulent aller écouter. Ensuite, je pense que le contexte étant très violent, notamment sur la presse de l'époque, il sera sans doute très intéressant de projeter quelques caricatures de Dreyfusard, anti-Dreyfusard,
de Zola lui-même,
de
qui,
Zola
était,
lui-même voilà, qui a été, oui, qui a été violemment caricaturé, de Dreyfus, et puis de voir un petit peu, de montrer aussi alors, au public qui sera là, la différence qu'il y a dans l'approche linguistique et sémiologique, en fait, de la presse de l'époque, et avec nos usages actuels, qui sont beaucoup plus édulcorés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, mais la violence est plus larvée. Là, elle est beaucoup plus explicite. Et je pense que ça peut être très intéressant de souligner nos propos avec ce genre d'image, notamment.
Quelles sont les questions principales que vous allez aborder ? Donc, c'est la question de la liberté de la presse, de l'engagement politique d'un artiste qui arrive finalement à faire émerger la vérité et à tordre le bras de l'injustice, j'allais dire de la justice, non, de l'injustice.
Vous savez, pour la chaire Jean Rodin, la question de l'engagement est extrêmement importante, puisque la chaire Rodin porte son nom en référence évidemment à Jean Rodin, qui s'est engagé dans l'œuvre de charité, dans la charité pratique, si je puis dire, de terrain, puisqu'il considérait qu'il fallait que ce ne soit pas que théorique, mais que ce soit mis en œuvre. Par rapport à Zola, ce qui est frappant, c'est qu'on connaît tous, on a connu des hommes qui ont pu s'ériger contre un régime, contre des rois puissants, contre des forces importantes. Mais s'ériger pratiquement seul contre une foule, contre le peuple, contre la populace d'ailleurs, dira Hannah Arendt, ça on en connaît peu. On en connaît très peu. Et Zola, c'est ce que disait d'ailleurs Clémenceau, je crois, au début du XXe, lorsqu'il a fait un discours en rappelant l'engagement de Zola, a dit c'est peut-être un des seuls qui s'est mis debout face à la foule. Et donc ça, cette notion de l'engagement, c'est un des cœurs centraux des activités de la chaire Jean Rodin, et c'est ce que nous voulions mettre en avant.
Et ce qui est très intéressant, c'est que l'histoire littéraire et l'histoire culturelle a fait de Zola un engagé, mais il faut savoir que dans les Rougon-Macquart et dans le principe naturaliste, il n'y a pas d'engagement en fait. Lorsque Zola écrit Germinal, lorsque Zola va dans la mine, il ne prend pas parti, il expose simplement.
Décrit.
Il décrit. Il donne de manière scientifique, de manière clinique, un état de fait et il laisse la responsabilité à son lecteur d'en déduire ce qu'il veut. Donc, on ne peut pas dire, à l'époque où il écrit les Rougon-Macquart, que c'est un écrivain engagé. Il est vraiment, et c'est lui qui le dit, notamment dans ses textes sur « La vérité est en marche et rien ne pourra plus l'arrêter », c'est au moment de J'accuse qu'il crée lui-même cette notion d'intellectuel engagé.
Voilà, d'écrivain engagé.
Tout à fait.
Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'au final, ce que l'histoire en aura retenu, c'est de lire a posteriori l'œuvre de Zola sur ce prisme de l'engagement qui n'était pas le sien au moment où il n'est qu'auteur de fiction. C'est-à-dire que là, en plus, bon, pour la littéraire que je suis, c'est un régal de travailler ce texte parce qu'on est vraiment sur ce qu'on appelle le triangle aristotélicien, l'éthos, le logos, le pathos, et il va rajouter quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est le mythos. C'est-à-dire que l'éthos, on va être vraiment sur la crédibilité, la respectabilité qui est la sienne en tant qu'écrivain le plus célèbre de France, puisqu'il est lu grâce notamment au feuilleton, il est lu par des gens qui n'ont pas accès à la culture et aux livres habituellement. Donc c'est un écrivain populaire dans tout ce que ça a de beau comme concept. Donc, sa crédibilité, le logos, il va utiliser toutes les stratégies rhétoriques, il va faire appel à la logique, il va faire appel aux preuves, il va faire appel aux faits, objectivement. Il va faire, bien évidemment, appel au pathos, donc à l'émotion, à l'affect, parce qu'il n'y a que comme ça, on convainc avec la logique et on persuade avec
le cœur.
Et surtout, moi, ce que je trouve absolument admirable et totalement paradoxal, c'est qu'il va faire de Dreyfus, et de lui, paradoxalement aussi, de Dreyfus une figure christique. C'est-à-dire que Dreyfus, dans le mythos, va devenir la victime expiatoire, celui qui doit porter dans ses souffrances psychologiques, physiques, les péchés d'une société corrompue. Et donc, il va devenir, par capillarité, une espèce de saint laïc, une espèce d'hagiographe de Dreyfus. Et je trouve ça absolument... génial, parce qu'on va retenir ça pour lire tout l'ensemble de son œuvre.
Il faut rappeler, bon, vous disiez que Zola est l'écrivain le plus célèbre à l'époque.
Oui.
Il est riche aussi,
oui.
Il est adulé, donc il va se retrouver devant la justice, il va être condamné, et puis ça va lui coûter aussi l'Académie française.
Tout à fait.
Il n'entrera jamais à l'Académie française à cause de ce J'accuse et de ses prises de position dreyfusardes.
C'est ça, ça va lui coûter, quelque part aussi, ça va lui coûter un peu de crédibilité auprès de la presse bien-pensante de l'époque, et il va être véritablement vu comme un engagé, comme un écrivain de gauche, comme on disait à l'époque, hein, pour eux, un écrivain populaire. Mais aussi, Aude en parlait tout à l'heure avec son exil à Londres, ça va lui permettre aussi d'avoir une résonance internationale qu'il n'avait pas forcément jusqu'alors.
Oui.
Et finalement, d'être exilé à Londres, on va connaître son J'accuse. Et là aussi, a posteriori, les Anglais vont commencer à regarder aussi son œuvre. Donc il va perdre d'un côté, mais il va gagner aussi de l'autre. Mais je ne pense pas du tout que c'est été dans son intention d'en tirer un profit personnel.
Ce qui est au cœur du sujet aussi, c'est cette loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Et il y a la question de l'indépendance des médias en général. On ne disait pas les médias à l'époque, mais elle est aussi centrale dans votre conférence.
Tout à fait. Alors, l'indépendance, ou du moins les moyens pour permettre une indépendance de la presse. Voilà, dire que par principe la presse est libre, qu'elle peut publier ce qu'elle souhaite, que les interdictions doivent être prévues par la loi en amont. Alors par la suite, cette loi a un petit peu évolué, notamment sur les nécessités pour lancer un média de presse. Maintenant, on n'a plus besoin d'un cautionnement, on n'a plus besoin d'autorisation, donc ça allège cette possibilité de création. Le Conseil constitutionnel est intervenu, le législateur aussi, pour permettre un pluralisme des médias, pour voilà, bah, se mettre un petit peu au goût du jour pour prendre en compte la communication électronique, la communication numérique, les réseaux. Voilà. Mais initialement, cette loi, elle fait écho à l'article 11 de la DDHC de 1789. Et ensuite, elle a été reprise dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, dans la Convention européenne des droits de l'homme à l'article 10. Donc c'est une loi qui est toujours inscrite dans notre arsenal juridique et qui, à mon sens, n'est pas prête à en sortir, sauf à intégrer carrément un code de la communication. Voilà, ce qui est parfois appelé par une partie de la doctrine de façon à clarifier un petit peu ce domaine-là. Voilà.
Ces questions, on les entend beaucoup aujourd'hui. La liberté de la presse, la liberté d'expression serait en danger hein, dans notre pays. On l'entend pour des raisons parfois objectives. On sait qu'il y a des milliardaires qui rachètent des groupes de presse, qui concentrent parfois autour d'eux. Il y a les prises de position d'Elon Musk par rapport au réseau, non plus Twitter, mais X maintenant. Est-ce que la loi du 29 juillet 1881 est toujours adaptée à notre époque? Est-ce qu'il faudrait la faire évoluer, selon vous, ou pas?
Écoutez...
Certains le pensent.
Alors, c'est une question à laquelle il serait bien péremptoire d'y répondre en une ou deux minutes. À mon sens, à mon humble avis... Je ne pense pas qu'il faille nécessairement la modifier. Comme le disait Montesquieu, il faut changer la loi d'une main tremblante. Voilà. Il ne faut pas se précipiter sur un fait d'actualité, quand bien même ce fait a 10 ans et a encore des conséquences maintenant, des répercussions aujourd'hui, pour se dire, bon voilà, il faut changer. Alors je ne dis pas non plus qu'elle est parfaite, cette loi. Je dis que grâce au travail de la jurisprudence et du législateur qui est venu un peu en pointillisme mettre au goût du jour cette loi, mine de rien, c'est quand même un arsenal juridique qui tient. Et que, à l'heure actuelle, ce n'est peut-être pas la priorité du législateur. Nous avons un nouveau garde des Sceaux, on ne sait pas s'il va rester. Je pense qu'il aura peut-être d'autres travaux plus importants que de toucher à cette loi de 1881 qui fonctionne.
Voilà. Alors, malgré tout, est-ce que vous avez des craintes aujourd'hui sur le devenir de la liberté d'expression dans notre pays? Est-ce qu'elle est en danger? Marie-Cécile Cadars. La littéraire doit avoir une idée sur la question.
Oui, alors, des craintes, j'en ai beaucoup, notamment concernant ce qu'on appelle l'intelligentsia, hein, qui est, à mon sens, moi qui suis spécialiste du 19e siècle, on est très, très, très loin du franc-parler, de la prise de position, de la liberté de s'exprimer sur telle ou telle idée, bien qu'on soit actuellement, à mon sens, plus dans une société d'opinion que dans une société d'information. Je trouve que l'opinion est très consensuelle, très édulcorée, et je ne suis pas certaine qu'on aurait des textes comme J'accuse aujourd'hui. En tout cas, sur les récents événements qui ont agité le pays ou l'Europe, on n'a pas entendu s'élever des voix comme celle de Zola.
Vous pensez qu'aujourd'hui, Zola aurait beaucoup de mal à publier son J'accuse ?
Alors moi, je pense que Zola l'aurait fait contre vents et marées parce que je suis
zolienne. Alors qu'il aurait envie de le faire, oui, mais est-ce qu'il aurait trouvé un support pour le publier?
Alors je pense qu'il l'aurait fait peut-être, soit parce qu'il est riche et qu'il aurait créé et acheté son propre support.
Bon, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Donc vous
et surtout par les réseaux sociaux, je pense qu'il aurait beaucoup de followers actuellement. Et je pense
il aurait peut-être un blog.
Voilà, et je pense qu'il aurait fait le buzz avec son J'accuse. Mais je ne suis pas sûre que sur les médias publics ou sur les chaînes d'État, il aurait pu écrire quelque chose comme ça. Peut-être sur des médias alternatifs.
Est-on limité, je ne connais pas, est-on limité en termes de caractère sur Twitter, enfin sur X?
Parce que la lettre de... Oui, mais s'il avait un blog personnel une page Facebook, non, il n'y a pas de limite.
Oui, ou une chaîne YouTube.
Oui, parce qu'il y a aussi...
Il n'aurait même plus le lire
le déclamer devant une caméra.
Absolument.
C'est ça, oui. Parce qu'il y a aussi la technicité. Quand on est obligé de résumer une pensée en X caractères...
Ce qui est d'ailleurs très inquiétant, parce que cette tendance actuelle à résumer les pensées fait que ça appauvrit complètement le développement critique.
L'argumentaire n'est pas le même.
Parce que là, ce qui est beau dans ce J'accuse, c'est qu'il prend le temps de contextualiser, il prend le temps de s'exprimer.
Il déploie.
Il déploie, exactement. Il déploie pour finalement, donc on a une belle technique de l'entonnoir, on part de loin, de façon à ce qu'encore une fois,
arriver
ça touche le
vérité,
peuple, pour arriver ensuite à la vérité, à la justice, et à sa célèbre litanie de J'accuse.
Qui est précédée de «
il est temps pour moi
de conclure cette lettre
exactement,
qui est trop longue ».
Donc, pourrait-on le faire encore aujourd'hui, juridiquement, techniquement, oui, mais est-ce qu'il aurait la place dans un média d'être aussi long? Je ne sais pas. Et donc, si on commence à limiter l'idée en termes de caractère, nécessairement, on va limiter également
l'idée. En parlant de conséquences juridiques, ce seraient les mêmes aujourd'hui pour lui ?
Oui,
la
tout
loi
à
est
fait.
Toujours la même. C'est oui, la loi oui. du 29 juillet 1881, oui. donc les conséquences seraient les mêmes.
Oui, les conséquences seraient les mêmes, oui.
Il serait accusé des les mêmes chefs d'accusation.
Tout à fait. Il aurait toujours à disponibilité l'exceptio veritatis ou la question de la bonne foi, qu'à mon avis, il n'utiliserait pas, puisque pourquoi il a diffamé de façon à pouvoir réouvrir un procès Dreyfus. Donc, il n'avait pas les éléments de preuve nécessaires pour, démontrer les actes de diffamation qu'il causait. Et donc, le procès Dreyfus est ouvert. Alors, je pense qu'il serait condamné à moins, parce que là, il a pris vraiment la peine maximale.
Maximale, voilà. oui.
Mais il voulait en faire un exemple aussi.
Le contexte était tel que
D'ailleurs, certains ont dit que s'il n'avait pas été condamné, il ne serait certainement pas sorti vivant du tribunal. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la condamnation l'a peut-être sauvé en partie, puisqu'en 1902, il décède dans des conditions un petit peu surprenantes.
Troubles, voilà. Ce qui accrédite l'idée que cet empoisonnement au dioxyde de carbone était plus volontaire que
fortuit.
Voilà.
Oui. Bon, sachant donc que la grâce de Dreyfus intervient en 1899, donc assez rapidement après le J'accuse,
oui.
et donc il sera réhabilité définitivement en 1906,
oui.
4 ans après la mort de Zola, qui ne pourra pas assister à ce qui a été son triomphe posthume finalement.
Oui.
Alors la conférence, pas la peine de s'inscrire au préalable.
Non,
on
pas du tout.
On peut y aller donc à midi et demi à l'Institut catholique de Toulouse. Pour la visioconférence, il y a un lien qu'on peut trouver
il y a un lien
sur le site de l'ICT.
Alors, il y a
un
lien.
Demander, je crois.
Oui, qu'il faut demander. Vous pouvez m'écrire à aude.bernard@ict-toulouse.fr. Mais c'est disponible, les éléments sont disponibles sur le site de l'ICT. Voilà, et puis je vous communique le lien. C'est un lien Zoom, on ne peut plus classique.
Et le public visé, c'est très large, c'est pas seulement des étudiants en droit en littérature. Tous ceux qui se passionnent pour cette affaire
c'est
et pour l'engagement politique en général et l'engagement artistique peuvent évidemment y assister. Eh bien, nous allons conclure cette émission. Nous sommes arrivés à son terme. Merci beaucoup à toutes les deux, Aude-Bernard Rougeau de Boubé et Marie-Cécile Cadars. Je rappelle que vous animez la conférence consacrée au J'accuse d'Émile Zola, organisée par la chaire Jean Rodin, lundi prochain, le 13 janvier, de 12h30 à 14h, à l'Institut catholique de Toulouse. L'entrée est libre et l'on peut y assister également donc en visioconférence. Renseignements sur le site www.ict-toulouse.fr. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes. À la semaine prochaine.